Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Salut Rokaya.
Salut Grace.
Salut les auditrices.
Vous trouverez la suite de Kif Taras et les nouveaux épisodes à écouter sur votre plateforme habituelle de podcast.
Faites simplement une nouvelle recherche avec le titre Kif Taras chez Pseudo Radio et abonnez-vous à ce fil.
Bien sûr, les 4 premières saisons des épisodes de Kif Taras resteront toujours disponibles chez Binge Audio.
Merci pour votre écoute précieuse
et à bientôt.
Une production Binge Audio, évidemment.
Bonjour Rokaya.
Bonjour Grace.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kif Taras, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales.
Comme vous le savez, dans Kif Taras, nous parlons sans complexe d'arabes, d'asiatiques, de roms, de noirs, de blancs.
Et dans Kif Taras aujourd'hui, nous allons à l'Opéra de Paris pour parler des questions raciales. Le sujet est brûlant et d'actualité, porté par un manifeste intitulé « De la question raciale à l'Opéra National de Paris », daté d'octobre 2020, signé par des salariés de l'institution de plus de 350 ans, et une mission de réflexion et de proposition confiée par le directeur Alexander Neff à la secrétaire générale de la Défenseur des droits Constance Rivière et le professeur Pap Ndiaye, rendu en février 2021. Vous vous en doutez, c'est un sujet pour Kif Taras.
Et pour en parler aujourd'hui, nous avons invité Benkadi Emmanuel Hié, qui va nous faire part de son expertise et de son expérience sur la question. Salut Benkadi.
Bonjour Kaya, bonjour Grace.
Alors tu es chef de projet événementiel à l'AROP, qui est l'association pour le rayonnement de l'Opéra de Paris. Donc l'Opéra de Paris qui est une institution qui compte 2 salles, Palais Garnier et à la Place de la Bastille, et une académie et une école de danse.
Absolument.
Alors, je ne sais pas si tu es au courant, mais dans Kif Taras, on a un petit rituel, parce que comme on va parler des questions raciales, on demande à nos invités si il ou elle se situe sur le plan racial et comment. Par exemple, Rokaya est perçue comme une femme noire, moi je suis perçue comme une femme asiatique. Est-ce que toi, Benkadi, c'est une question que tu t'es posée?
Moi, je me définirais comme un jeune homme métis. Mon père est noir, il vient du Burkina Faso. Ma mère est blanche, donc oui, je dirais métis. En tout cas, avec des origines africaines du côté d'un de mes parents.
Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu as pris conscience de cette position, de cette position raciale, entre guillemets, en France?
Je pense que j'en ai toujours eu conscience, parce que quand je me promenais étant petit avec ma mère, qui est blanche, rousse, la peau très claire, forcément, parfois, les gens avaient du mal à comprendre que j'étais son fils. Donc, je pense qu'il y a toujours cette conscience, en tout cas, que ma couleur de peau signifie quelque chose, en tout cas, qu'elle suscitait parfois de la curiosité ou des interrogations dans les rapports que j'avais, notamment avec ma mère.
Et dans ton parcours professionnel, depuis que tu travailles au Paris, de Paris, il y a une anecdote que tu as relatée dans un article du Monde où on t'a pris pour quelqu'un d'autre dans ton travail.
Oui, oui. Moi, je travaille du coup dans le mécénat, donc on sait souvent qu'on accueille aussi du public ou des mécènes. Et effectivement, il y avait cette anecdote où une personne était venue devant moi et a voulu ouvrir son sac devant moi, en pensant que j'étais un agent de sécurité. Alors que...
Parce que tu étais bien mis.
Voilà, j'étais en costume, cravate.
Forcément, une personne non blanche en costume cravate ne peut être qu'agent de sécurité.
Voilà, c'est des raccourcis en fait qui sont faits de temps en temps. Donc voilà, c'était un peu désagréable, mais au final...
T'as survécu.
Exactement.
Alors, en octobre 2020, tu as pris part à un manifeste qui s'appelle « De la question raciale à l'Opéra National de Paris ». C'est un manifeste qui a été ouvert à la signature de l'Opéra de Paris et de l'Europe dans le but de faire sortir la question raciale du silence qui l'entoure au sein de l'Opéra. Donc, je cite le texte du manifeste. Est-ce que tu veux nous raconter la genèse de ce texte ?
Oui, ce texte il est né dans un contexte un peu exceptionnel. C'était à la fois celui du confinement. On avait passé toute cette période un petit peu isolée, avec une activité ralentie à l'opéra, forcément, parce que nous, sans public et sans contact avec les publics, il y a beaucoup moins de choses qui se passent. Et de tous ces mouvements et de toute cette médiatisation de l'affaire George Floyd, qui a aussi, je pense, beaucoup provoqué de débats à la fois dans les institutions, mais aussi au niveau des individus. Moi, je pense que j'ai jamais eu autant de discussion sur le racisme, sur la discrimination, sur la diversité qu'à ce moment-là. Et forcément, du coup, bon, on regarde un peu sa propre situation et puis on se dit, mais moi, comment ces questions-là, ça m'affecte? On le sait parce que c'est du vécu, hein. J'ai cette couleur de peau depuis que je suis né, donc il y a plein d'épisodes, il n'y a pas d'anecdotes, mais d'avoir un peu du recul et notamment dans le milieu professionnel. Comment est-ce que cette question, qu'est-ce que j'ai vécu, etc. Et en fait, on s'est retrouvés au moment du déconfinement avec des artistes du ballet qui sont eux aussi métisses, pour un peu discuter en fait de notre expérience à l'Opéra de Paris, dans nos métiers différents, et peut-être des réflexions plus générales, un petit peu détachées de nos personnes individuelles, mais de manière un peu plus générale, quels étaient les grands sujets ou quelles étaient les grandes problématiques sur ces questions-là et sur ce qu'on pouvait faire en fait pour faire progresser l'institution. Donc voilà, donc on a décidé de rédiger une lettre ouverte qu'on a nommée après manifeste, qui s'adresserait en fait à la fois à nos collègues et à la fois à notre direction, pour vraiment ouvrir le débat, parce que c'était un sujet qui pour nous était un sujet tabou, qu'on voyait comme tabou et qui je pense en sera encore pendant un petit peu quelques temps un sujet tabou, mais on avait vraiment envie d'être en mesure d'avoir cette discussion, une discussion qui est pas forcément agréable, une discussion voilà qui peut provoquer des réactions un petit peu de défensif pour certains, qui parfois provoque un peu de frustration ou de tristesse ou de regret ou de choses qui sont pas très agréables, mais voilà, on trouvait que l'actualité faisait que ce moment-là se prêtait à cette discussion-là. Et pour l'instant, on est assez satisfait du chemin que cette initiative a pris, parce que il y a effectivement un dialogue qui s'est ouvert sur ce sujet. Il y a eu plein de discussions, que ce soit nous avec nos amis, nos collègues, ou ce soit même au niveau de l'institution.
Alors tu l'as dit, il y a eu un contexte global qui est celui qui a suivi la mort de George Floyd et la vague antiraciste qui s'est emparée du monde. Alors beaucoup d'institutions culturelles, notamment européennes, états-uniennes, ont publiquement exprimé leur solidarité avec le mouvement Black Lives Matter et ils ont mis en place des réflexions internes. Est-ce que vous avez eu le soutien immédiat de votre institution et comment ça s'est passé par rapport à ça?
Alors en fait, dans un premier temps, quand on a fini de rédiger ce manifeste, avant de l'envoyer à nos collègues, on a vraiment tenu à rencontrer nos responsables, donc la direction de l'Opéra de Paris, pour pouvoir en fait leur expliquer notre démarche, pour qu'ils comprennent vraiment dans quel état d'esprit on était et puis d'où ça venait aussi, pour qu'ils comprennent un petit peu d'où cette démarche venait. Donc ça s'est fait en juillet et du coup on a rencontré dès ce moment-là Alexander Neff, qui n'était pas encore en poste. Il a pris son poste finalement au mois de septembre, la fin du mois d'août si je me souviens bien, mais qui allait être celui qui allait avoir à répondre à cette démarche-là. Donc on a eu un dialogue qui a été très apaisé, vraiment quelque chose dans la discussion, dans la bienveillance. Je pense que lui avait aussi cette expérience puisqu'il a dirigé une institution au Canada, à Toronto, donc je pense que lui, toutes ces questions-là avaient déjà dû y faire face dans un autre pays, avec aussi une autre culture, et je pense que ça a beaucoup aidé aussi à ce que toute cette démarche-là, tout ce processus se fasse dans un certain calme, en fait, et une discussion. Voilà, et ensuite, effectivement, la réponse qui a été donnée par l'Opéra de Paris, ça a été de solliciter donc Constance Rivière et Pape Ndiaye pour prendre le temps, en fait, de formuler une réponse à ce manifeste, pour aussi un peu prendre la température au sein de l'opéra et de manière générale au sein de cet univers, de la musique classique, de l'opéra, du ballet, pour donner une réponse réfléchie et pas une réponse réaction rapide. Et je pense que ça a été très sain.
Et ce qui caractérise le ballet de l'opéra en particulier, selon la chercheuse Audrey Lemarchand, c'est que sur les 160 danseurs et danseuses, il y a seulement 5 noirs et métisses, et qu'il n'y a jamais eu de professeur non blanc à l'école de danse. Donc c'est déjà un contexte où vous vous êtes exprimé à travers le manifeste en étant minoritaire. Donc le manifeste, en ce sens, rejoint pas mal des préconisations du rapport, et notamment la fin des pratiques scéniques racistes qui montrent des personnages stéréotypés présentes dans un certain nombre d'œuvres, comme le chef des Sarrasins dans Raymonda, ou les Indiens, entre guillemets, dans La Bayardère, qui caricaturent la figure de l'indigène, et donc la fin des pratiques comme le blackface, yellowface ou brownface. Est-ce que tu peux nous en parler, nous dire ce dont il s'agit, et qu'est-ce qui vous a conduit à la conclusion du fait que ça devait cesser?
En fait, ces questions du blackface et de manière générale de se grimer le visage pour incarner sur scène l'étranger, donc le non-blanc, dans des pièces qui ont été créées en Europe à une période où effectivement on avait cette vision de l'autre. C'est un sujet qui, dans le monde de l'opéra, du ballet, fait beaucoup de bruit depuis un certain nombre d'années. C'est pas un sujet qui est limité à l'Opéra de Paris, c'est un débat qui a eu lieu aux États-Unis, en Europe, dans d'autres pays, etc. Et c'est vrai qu'il restait certaines œuvres à l'Opéra de Paris où il y avait ces pratiques de maquillage. Et pour nous, c'était un peu une absurdité, quelque chose comme une trace d'un passé avec tous ces stéréotypes-là qui n'avaient plus lieu d'être en 2020, notamment dans une compagnie où il y a aussi du coup des danseurs racisés, où on a aussi vocation à ouvrir l'institution à tous les Français, quelles que soient leurs origines, quelle que soit leur couleur de peau. Et pour moi, en tout cas, dans cette pratique du blackface, il y a quelque chose de très illogique et quelque chose qui ne tient pas debout. L'exemple que j'ai en tête et que j'utilise le plus souvent quand je discute avec des gens de ce sujet, c'est par exemple le ballet La Bayadère. La Bayadère, effectivement, c'est un ballet qui se passe en Inde, donc qui raconte l'histoire d'un trio amoureux, donc voilà, de rivalité amoureuse, etc. Donc ça se passe en Inde. Les trois personnages principaux, qui sont Solor, Gamzati et Nikia, sont indiens. Mais si vous voulez, si vous allez voir La Bayadère par le ballet de l'Opéra de Paris, c'est toujours des personnages qui sont dansés par des danseurs blonds. Blonds, parfois des danseuses blondes, effectivement, aux yeux clairs, etc. Enfin, qui n'ont pas du tout un phénotype qui est le phénotype des personnes indiennes. Mais si vous voulez, ça n'a jamais interrogé quiconque et ça n'a jamais posé de problème à quiconque et ça n'a pas empêché ces artistes d'incarner ces personnages parce que ce sont des bons artistes, de très bons artistes, qui ont aussi ces capacités d'interprétation sur scène, ces qualités d'acteur, etc. Et le public n'a aucun mal à considérer que, voilà, ça c'est une personne, on est en Inde, on le comprend avec les costumes, avec le décor, avec le programme qui explique aussi pour les gens qui n'ont jamais vu un petit peu où se situe l'histoire. Donc là, on ne va pas aller chercher le stéréotype, mais par contre, dans toutes les figures du ballet qui ont effectivement ce stéréotype racial très fort, donc on va avoir effectivement l'esclave, on va avoir ce qu'on appelait à l'époque la danse des négrillons, qui sont les petits personnages noirs qui accompagnent un personnage qu'on appelle l'idole dorée, pour une variation qui est assez connue du ballet, où effectivement ces indiens qui tournent autour du feu avec des plumes, etc. Donc à chaque fois qu'on veut convoquer les stéréotypes, on utilise le blackface, parce que on considère qu'il faut qu'on comprenne que ce sont des personnes non européennes. Par contre, quand on est dans des personnages qui ont vocation à être universelle, auquel le spectateur doit pouvoir s'identifier, là, on ne convoque pas cette pratique-là. Donc, ça monte dans un seul même ballet, en fait, on voit que ça ne tient pas debout et on voit pourquoi cette pratique de maquillage est utilisée. Et voilà, et je pense que c'est quelque chose qui n'a plus sa place en 2020.
D'ailleurs, la danse des négrillons a été rebaptisée du temps de Benjamin Millepied, donc en 2015, qui est devenue la danse des enfants.
Absolument.
Absolument. Donc c'est une des démarches qui avait déjà été initiée. Exactement. Avant même que cette réflexion ne voie le jour de manière faisante.
Exactement. Et de pareil, manière générale, dans le monde du ballet et de l'opéra, c'est un débat qui a été mis sur la table. Et effectivement, Benjamin Millepied, pour ce ballet-là, La Bayadère, avait déjà évoqué le sujet et procédé à quelques changements.
Oui, la réflexion autour de l'opéra, des pratiques, ne date pas d'hier. Tu as parlé de la danse des enfants qui a été rebaptisée, mais il y a aussi le carré des cariatides qui a été renommé. Alors, cariatide, ce n'est pas donc une artère ou un génotype, un truc génétique humain. Non, en fait, c'est des femmes qui tiennent des colonnes, en fait. C'est ça.
Absolument, absolument.
C'est pas une espèce extraterrestre.
C'est vrai que la question du vocabulaire autour du ballet est très symptomatique et reflète, par exemple, on dit danse classique, mais toutes les danses non blanches, on les appelle traditionnelles. Comme s'il y avait, ouais. Donc le classicisme, c'est vraiment quelque chose lié aux personnes blanches. Et l'art ancestral, je ne sais pas, des apsaras au Cambodge, c'est une danse traditionnelle khmer. Donc ça, c'est très saisissant, en fait, ça, surtout que l'Opéra de Paris est traditionnellement, et le rapport le note très bien, moi, quand j'ai lu le rapport, ça m'a paru clair, limpide. C'est un lieu d'excellence artistique porté à son plus haut, où les élites politiques et économiques se retrouvaient pour socialiser. Et ça s'est reflété dans à la fois le moment où ça a été créé, le répertoire. Il y a une grande question sur le répertoire. Il y a des œuvres dans le répertoire du ballet qui reflètent vraiment la vision du monde à un moment T. Donc cette exploration, l'exotisation, l'altérisation des personnes, en fait. Et moi, je me rappelle avoir été voir, la seule fois où je suis allée à l'opéra, je suis allée voir donc Turandot. Un opéra de Puccini au Stade de France, et j'étais hyper contente parce que j'avais l'impression de faire un truc incroyable. J'avais jamais été à l'opéra. Mais j'ai quelle déception. Alors, je ne parle pas de la déception, je suis sûre que ces gens en savent très bien. Mais en fait, je me suis sentie hyper mal à l'aise, parce que Turandot, c'est une œuvre où il y a une dépiction très fantasmagorique des personnages. Donc, ça se passe en Asie. En plus, je pense que c'est la personne qui me l'a offert voulait me faire plaisir. Et donc, je me suis retrouvée dans un opéra où il y avait le maquillage de la peau... Je ne le voyais pas d'où j'étais, hein. J'avais une place pas très proche de la scène, mais en tout cas, j'imaginais qu'il y avait une exagération. Et il y a, donc, il y a aussi Madame Butterfly qui fait partie du répertoire. C'est le destin tragique d'une geisha. Il y a aussi les trois ministres de l'empereur qui s'appellent Ping, Pang et Pong. Donc ça, c'est quand même très, 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 très raciste.
Je pense que là, on ne peut pas faire de périphrase. Hein. C'est très explicitement raciste.
Mais la question du répertoire est très importante parce que quand vous avez donc, publié le manifeste en octobre et donné plusieurs interviews, il y a eu un vent de panique qui a soufflé dans les médias français. Et on s'est dit, ils veulent supprimer des œuvres du répertoire national. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler comment ça s'est passé et ce que vous allez faire ou pas faire?
Oui. Ce qui est drôle, pardon, parenthèse, c'est des gens qui ne vont absolument jamais à l'opéra qui tout d'un coup se sont inquiétés de voir notre patrimoine classique être amputé de ses œuvres majeures. Donc, tu avais envie de dire, mais vous n'allez même pas remarquer, en fait, si on les supprime. Et puis, en plus, il n'en était même pas question.
Absolument. En fait, je pense qu'il y a vraiment un problème de mystification du répertoire. Et il y a beaucoup de choses que l'on croit vraies qui ne sont pas si vraies que ça, ou en tout cas, qui ne se présentent pas de la manière dont certains les perçoivent. L'opéra et le ballet, ce sont des arts vivants. Donc, si vous voulez, quand on va à l'opéra, quand on programme les pièces d'un répertoire, on n'est pas là pour montrer une œuvre sous cloche. Et si vous voulez, la valeur de l'œuvre ne grandit pas à mesure du passage du temps. Voilà. On est là pour donner des œuvres qui résonnent aussi dans une certaine époque, dans une certaine société. Et ça, en fait, ça a toujours été le cas. Pensez que ces mouvements de jeunes woke de 2020 qui font de la cancel culture, non, de tout temps, en fait. Non, mais c'est vrai. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à remettre. Non, il y a vraiment quelque chose à remettre dans son contexte. C'est-à-dire que de tout temps, il y a d'autres personnes qui le diront encore mieux que moi, parce qu'ils sont encore plus spécialisés dans l'histoire de l'opéra, dans l'histoire de la danse classique notamment. De tout temps, on a changé des œuvres, on a parfois enlevé des actes entiers, on a parfois rajouté des variations des actes. Par exemple, la Bayadère, cette fameuse variation de l'idole dorée dans laquelle il y a ce qu'on appelait avant la danse des négrillons, c'est un passage qui n'était pas à l'origine dans la Bayadère qui a été rajouté. Alors, je ne veux pas m'aventurer et dire de bêtises, mais en tout cas, ça a été rajouté pour moi au XXe siècle, dans la deuxième partie du XXe siècle. Donc, les œuvres, on les altère, entre guillemets, de manière positive, en permanence, parce que ce sont des arts vivants. La transmission fait également qu'on ne peut pas forcément reproduire à l'exact une pièce qui date. Voilà. Donc, en France, à l'opéra et même partout dans le monde, quand on joue une œuvre, quand on joue un lac des cygnes sur la scène de l'opéra en 2020, non, on ne joue pas la version qu'on jouait il y a 200 ans ou il y a 250 ans. Et ça, vraiment, c'est une idée reçue que je pense que les gens doivent se sortir de la tête. Donc effectivement, quand on dit qu'on va peut-être changer la représentation des stéréotypes dans certaines œuvres, il ne s'agit pas de supprimer l'œuvre, il ne s'agit pas de la mettre au placard, il s'agit juste d'apporter des corrections sur une œuvre parce que effectivement la façon dont sont présentées les choses n'est pas acceptable en 2020 parce qu'on a progressé.
Voilà. En fait, comme la représentation des Indes galantes qui a eu lieu à l'Opéra Bastille
en 2019,
chorégraphiée par Bintou Dembélé.
Qui est la première femme noire à avoir co-créé un opéra.
Et qui a donc...
un opéra, l'opéra de Paris, hein. C'est pas dans le monde, évidemment.
Et devant les Indes galantes font voyager les spectateurs dans plusieurs pays, la Turquie, le Pérou, en Perse et en Amérique du Nord. Et à l'époque, désignaient les Indes orientales et occidentales, donc vraiment la vision très...
Coloniale.
Hein. Et n'a pas du tout été jouée de cette manière-là par les danseurs... sur la scène du ballet de l'Opéra Bastille. Donc il y a une réinterprétation.
C'est un bel exemple, je trouve, les Indes galantes, parce que à la fois, c'est une œuvre qui est ancienne, c'est une œuvre de Rameau, c'est une œuvre ancienne, dans un style particulier de l'opéra-ballet, donc avec, du coup, c'est une œuvre lyrique, mais dans laquelle le ballet a beaucoup de place. Et en fait, cette mise en scène de Clément Cogitor avec la chorégraphie de Bintou Dembélé, je trouve que c'est intéressant parce que c'est à la fois le retour vraiment à l'opéra-ballet, c'est-à-dire que la pièce, quand vous la voyez, la danse a vraiment une place très importante. Donc, au renouer, et c'est pas souvent à l'opéra quand on va voir une œuvre lyrique. En général, quand il y a de la danse, c'est très secondaire. secondaires. Là, on a vraiment une œuvre dans laquelle on a donné beaucoup de place à la danse et on a vraiment une cohabitation sur scène et même un travail, je ne sais pas si vous avez vu le documentaire qui a été fait sur la préparation, mais on voit les danseurs de la compagnie de Bintou Dembélé qui rencontrent les chœurs, qui rencontrent le chef d'orchestre, qui rencontrent les solistes. Donc c'est à la fois, on renoue avec cette tradition, donc on fait vivre aussi, on se rappelle de l'histoire, on fait des clins d'œil à l'histoire, donc on est là aussi dans la tradition. Mais en même temps, on vient revisiter une œuvre qui est profondément raciste. Et en fait, c'est pas une cancel culture, c'est pas on va supprimer des œuvres, c'est justement en fait, on va pouvoir populariser des œuvres, les faire vivre en fait, les rendre immortelles d'une certaine façon, en les rendant pertinentes, en prenant le propos initial, même quand il est très problématique comme les Indes Galantes. Et quand on voit ce qu'ont réussi à en faire Clément Cogitor et Bintou Dembélé, c'est une œuvre qui est moderne. Et moi j'ai plein d'amis qui en plus sont des gens qui n'ont jamais mis les pieds à l'opéra, mais qui soit sont allés voir l'opéra, soit après ont regardé en ligne quand ça a été mis en streaming, parce qu'en fait ça leur parle. On danse du crump, on danse du break, on danse du voguing, et en même temps du coup on découvre des grands artistes lyriques, des grands chefs, on découvre, voilà, donc je pense qu'au contraire en fait, tous ces changements et toute cette nouvelle vision et toutes ces nouvelles choses qu'on peut apporter à des œuvres qui sont anciennes, c'est une façon de rendre les œuvres immortelles et c'est leur rendre service, parce que sinon effectivement, à part une fois comme ça pour l'expérience, ça ne m'intéresse pas de voir un opéra, en tout cas toutes les œuvres de l'opéra telles qu'elles étaient montrées il y a 250 ans. Et puis en fait, je pense que
la manière d'aller voir les spectacles vivants n'est plus la même aujourd'hui. Donc même nous, en tant qu'individus, on n'apprécierait pas.
Les œuvres n'étaient pas jouées de la même façon. Des ballets qui étaient placés entre des actes d'opéra. On avait la lumière qui était allumée dans la salle, les gens qui parlaient. Enfin, c'est un mythe de penser que voilà, les œuvres qu'on présente aujourd'hui, elles sont très modernes, en fait.
C'est ce que dit d'ailleurs dans le rapport David Bobet, qui recommande justement de supprimer les œuvres, mais de les réinterpréter à l'aune de ce que nous sommes aujourd'hui et d'introduire soit de l'ironie, de la distance quand il y a des choses qui sont explicitement racistes ou sexistes, hein, parce qu'il faut aussi dire qu'il y a quand même énormément de préjugés de ce point de vue-là, ou tout simplement proposer une relecture, mais qui ne dénature pas l'œuvre, tout simplement qui lui donne un éclairage contemporain. Il y a un autre aspect que vous abordez dans le manifeste et qui est aussi abordé dans le rapport, c'est vraiment la question de l'adaptation aux spécificités corporelles des danseuses et des danseurs. Il y a cette question des collants qui sont pensés pour valoriser les peaux blanches et qui ne sont pas esthétiques sur les peaux plus sombres, sur les peaux noires. Le matériel et les compétences nécessaires à la prise en charge des personnes noires, notamment pour les coiffer, pour les maquiller, donc, et puis là, vraiment la possibilité d'avoir du matériel conséquent pour leurs cheveux, pour leur peau. Donc tout ça n'est pas forcément mobilisé ou disponible. Et puis l'éclairage adéquat, c'est-à-dire que le jeu de lumière sur scène est effectivement pensé pour des personnes qui sont blanches et pour une forme d'uniformité. Donc est-ce qu'il y a eu des changements à ce sujet-là et quels sont-ils?
Oui, ça, pour le coup, c'est vraiment, pour moi, cette question, c'était vraiment un impensé. C'est-à-dire que ça fait partie de ces choses, je pense, du jour au lendemain, vous vous dites, mais comment on n'a pas pu y penser avant? Parce qu'effectivement, on est dans une maison plus d'excellence qui se revendique de l'excellence et auquel chacun essaie de contribuer à cette excellence. On y tient beaucoup et c'est quelque chose dont on est très fier. Et effectivement, quand on voit tout le travail qu'il y a derrière la confection des costumes qui prend beaucoup de temps, on connaît les proportions des artistes, on suit leur morphologie, on connaît qu'un tel, il faut plutôt mettre le costume de cette façon, un autre d'une autre. Enfin, c'est vraiment du surluxe, si je peux dire. Et donc de voir qu'à côté il y a certains détails en fait qui n'en sont pas, à côté desquels on est complètement passé, pour moi c'est vraiment de l'impenser. Effectivement, sur la question des collants notamment et des chaussons de pointe pour les danseuses, ça pour le coup la réaction et la solution a été trouvée très rapidement dans cette première partie de saison. Effectivement, c'est la direction des costumes et de la couture maquillage qui a discuté avec les danseurs et les danseuses concernées pour aussi tester, parce que du coup voilà, ça va prendre un petit peu de temps pour trouver les bonnes carnations, des choses qui marchent bien aussi avec les lumières, qui marchent bien avec le public, parce que quand on est à distance, on ne voit pas forcément les mêmes couleurs que quand on est très près, etc. Donc ça, il y a eu un gros travail. Effectivement, à la base, sur ces questions-là, des voix s'étaient levées en disant « mais ça rompt l'homogénéité du ballet, etc. » Et finalement, et j'invite tout le monde à aller le regarder, mais il y a la captation de notre gala d'ouverture de la saison 2020-2021 qui a été du coup captée parce qu'on n'a pas pu avoir de public et qui est disponible gratuitement sur la plateforme en ligne de l'Opéra, où pour la première fois, on a le défilé du ballet d'école de danse. Donc c'est vraiment une tradition très importante chez nous, le défilé du ballet. C'est sur les premières représentations de la saison à chaque fois. Et c'est vraiment une occasion de voir tous les artistes de la maison, qui est quand même une grande maison. Il y a 154 danseurs, il y a une centaine, je crois, d'élèves à l'école de danse. Donc il y a cette procession sur la scène par ordre, les femmes d'abord, les hommes après, par ordre de grade, d'âge, etc. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est très émouvant. Et vous voyez aussi la compagnie dans son intégralité. Et donc pour la première fois, les petites filles de l'école de danse et puis Laetitia Galloni et Awa Johanné qui sont dans le ballet avaient des collants qui correspondaient à leur carnation et du coup des chaussons de pointe qui correspondaient aux collants. Et en fait, quand on voit, on se dit...
On a survécu. Hein.
On ouais. a survécu. Voilà. Exactement. Moi, c'est très bien. Ouais. Et en plus, ça n'auront rien du tout.
Absolument.
C'est plus professionnel. C'est plus... Voilà. Parce qu'effectivement, la danse, c'est un art de ligne. On est là pour montrer les lignes. Et les danseurs travaillent d'arrache-pied, travaillent très dur justement sur ces lignes pour que ça soit le plus belle possible. Et donc, d'avoir des jambes de la même couleur que votre visage et que vos bras...
Bah, c'est de l'harmonie,
c'est,
en
voilà,
même.
C'est une question d'harmonie. Ouais. Et ne pas le faire, c'est aussi briser les lignes de ces danseuses-là.
Il y a eu l'homogénéité, comme tu dis, qui est un problème, hein, un fantasme, mais il y a aussi eu la symbolique du blanc, la pureté de la grâce.
De la ligne, en fait, encore une fois, de la question de la ligne, et le fait que, t'interromps, mais qu'on perçoit, en fait, les personnes qui ne sont pas blanches et qui n'ont pas de costume adapté comme étant des personnes qui font disruption, alors que... En réalité, c'est pas de leur faute si elles sont seules. C'est juste qu'il faut penser leur intégration en fait à un collectif qui ne doit pas être uniquement régi en fonction de la couleur blanche.
Oui, bah en fait, c'est juste la vision de l'homogénéité. En danse, qu'est-ce que c'est l'homogénéité? Est-ce que c'est une homogénéité de couleur ou est-ce que c'est une homogénéité de mouvement et de ligne?
Absolument.
Et en fait, à partir du moment où on a répondu à cette question, bah non, ça ne gêne pas. Enfin, en tout cas, moi, l'homogénéité telle que je la vois, si on veut laisser aussi dans cet art de la place à tout le monde, c'est une homogénéité de mouvement, c'est une homogénéité de ligne. Et c'est pas parce qu'il y aura des danseurs ou des danseuses de couleurs différentes que ça sera pas
la fin
homogène.
Du monde.
Et en ce sens, le rapport fait écho aux réflexions qu'il y a en ce moment dans notre société, c'est-à-dire que le blanc n'est pas le neutre de la couleur de peau, et comme le rapport le dit, le masculin n'est pas la neutralité des genres. Et il faut combattre activement ces idées qui sont assez passéistes, de penser que le blanc, c'est l'universel, et qu'un ballet en blanc, ce serait un ballet... neutre, enfin, qui
en fait,
se font.
Ouais, c'est comme si le blanc, c'était pas du tout une couleur. C'est comme si, en fait, la réflexion qui a conduit à choisir certaines couleurs de collants, de pointes, n'avait pas été basée sur une couleur qui était existante. Et en fait, on part du principe que blanc n'est pas une couleur et que tout le reste est une couleur qui demande un effort, alors qu'en réalité.
Alors, Okaya sait très bien de quoi elle parle, puisque comme elle a eu le Sparadragate, mais qui c'est mais la même polémique.
J'étais cyber harcelée aussi pour des questions de chaussons de danse. Hein. C'est-à-dire que quand la compagnie, la société anglaise a. En 2018, elle a décidé de produire en fait trois nouveaux types de chaussons de trois couleurs différentes pour justement éviter que des danseuses comme Ingrid Silva, qui est une Brésilienne qui est à New York, qui teignait en fait ses chaussons au cirage.
Elle-même, oui.
Voilà, elle le faisait elle-même. Donc non seulement ça lui prenait du temps, mais c'était un budget. Donc c'était une vraie charge mentale supplémentaire par rapport à d'autres danseuses. Et donc j'ai publié un tweet pour expliquer qu'il y avait enfin ces chaussons qui existaient. J'ai été cyberharcelée. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui trouvaient que c'était vraiment une préoccupation totalement superficielle et secondaire, que je voulais tout racialiser, qu'il n'y avait pas de problème, que tout s'était toujours bien passé jusqu'ici.
Alors que, comme dit Ben Kadi, ce n'est pas un détail, puisque l'harmonie du corps de ballet, c'est fondamental, en fait.
C'est loin d'être un détail. En fait, c'est justement tout ce travail qu'ils fournissent en studio depuis le plus jeune âge, c'est justement pour avoir cette ligne, pour avoir cette esthétique-là. Donc, effectivement, bah, des choses aussi évidentes que la continuité de leurs jambes, etc., c'est au contraire, en fait, c'est au cœur de l'art du ballet.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 000 lieues sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. comment on pourrait éradiquer l'inceste. C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant, et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 milieux sous ma chair, dans Le cœur sur la table. Comment devenir un ou une meilleure alliée de la lutte antiraciste ? Comment se confronter à ses privilèges en tant que personne blanche ? Chez Binge Audio Édition, on sort Mécanique du privilège blanc, un livre d'éducation antiraciste pour proposer des outils concrets à toute personne qui souhaite se confronter à ses privilèges. Le livre est signé Estelle Depri, qui anime depuis des années la page Instagram Semblant de Rien, sur laquelle elle produit du contenu antiraciste qui permet à chacun et chacune de devenir un meilleur allié. Vous êtes déjà plus de 2000 à avoir précommandé. Grâce à vous, on a dépassé notre objectif. Il ne vous reste que quelques jours pour commander vous aussi votre exemplaire. Rendez-vous sur ulule.com/mécanique-du-privilège-blanc ou sur le compte Instagram de Binge Audio Édition.
Je voudrais aussi souligner que la question du whitewashing, elle est prise en compte dans d'autres opéras européens. Par exemple, le Royal Opéra de Londres a fait un choix de ne prendre que des personnes noires pour jouer Othello, par exemple, parce qu'il y aurait une expérience noire à transmettre dans le personnage du général mort de l'armée vénitienne. Donc ça, c'est ce que explique le rapport, mais qu'il n'y a pas d'opposition prise par le rapport de Constance Rivière et de Pape Ndiaye. Mais ça, c'est une question, le whitewashing, qui a beaucoup, comme tu dis, pour on a utilisé des costumes et du maquillage pour faire passer les messages liés à la culture, pour expliquer où on était, parfois même en grimant des personnes. Et du coup, le whitewashing fait partie d'une certaine pratique des arts, en fait, d'une manière générale.
De manière même les arts de la scène ou du cinéma. On peut penser à Alexandre Dumas, qui a été interprété par Gérard Depardieu, où effectivement, on estime qu'un acteur ou qu'une actrice, ou Scarlett Johansson dans Ghost in the Shell, qu'un acteur ou qu'une actrice blanche ou qu'un danseur ou une danseuse blanche peuvent incarner tous les rôles, mais que finalement, les non-blancs, on va leur réserver les rôles de leur couleur de peau et plutôt des rôles secondaires. C'est-à-dire que dès lors que le rôle est un rôle important, on va le confier plus facilement à une personne blanche. Parce qu'en fait, en tant que blanc, on peut tout incarner, mais on va considérer que la personne non-blanche est trop singulière pour que tout le monde s'identifie à elle.
Bonjour tout le monde, je m'appelle Chloé Lopez-Gomez. Je suis la première femme de couleur à avoir intégré le Staatsballet de Berlin, qui est la plus grande compagnie de danse classique en Allemagne. Malheureusement, pendant ces deux dernières années, j'ai été sous la supervision d'une maîtresse de ballet qui a dit que le Staatsballet ne devait pas m'engager car je suis noire. Et une femme noire dans un corps de ballet, c'est quelque chose qui n'est pas esthétique. Le racisme que j'ai vécu s'est manifesté par des commentaires et par des blagues racistes, comme par exemple lors de la répétition du ballet La Bayadère, cette maîtresse de ballet distribuait des voiles blancs que nous devions accrocher sur notre tête. Quand est arrivé mon tour, elle a refusé de me le donner sous prétexte que je suis noire, et récemment, elle m'a obligée à me colorer la peau en blanc dans le ballet Le Lac des Cygnes pour que je paraisse plus blanche et plus uniforme avec le reste des filles.
Alors, elle a fait part d'une expérience qui a été extrêmement douloureuse. Elle a intenté une action en justice et d'ailleurs, elle a lancé une cagnotte pour soutenir son action judiciaire. Et vous pouvez retrouver les liens pour la soutenir sur Instagram. Et ce dont elle témoigne, c'est vraiment qu'elle a été vraiment pointée du doigt comme l'élément perturbateur. Et dans le rapport, effectivement, on raconte des expériences de danseurs et de danseuses, notamment auxquelles on a pu dire « rentre tes fesses de négresse » parce qu'il y a l'idée selon laquelle certaines silhouettes ne sont pas adaptées, mais par nature, en fait, à l'exercice collectif de la danse classique. Est-ce que t'as eu l'occasion d'échanger avec elle ? Est-ce que je sais que son frère est à l'Opéra de Paris ? Est-ce que c'est
une expérience signataire du manifeste ?
Oui, ouais. Tout à fait. Mmh. Est-ce que c'est une expérience qui ressemble en fait à d'autres expériences dont tu as eu vent ?
Alors oui, effectivement, j'ai suivi aussi tout le parcours de Chloé Anaïs Lopez-Gomez qui malheureusement du coup a pris ce chemin très confrontationnel en fait. Et je pense que voilà, ça demande beaucoup de patience et beaucoup de courage de sa part et ça c'est à saluer. Pour ce qui est de l'Opéra de Paris, moi je suis pas là pour parler à la place des danseurs ou des danseuses, mais effectivement, je pense qu'il y a tout un tas de stéréotypes en fait dont il faut se détacher aussi sur les corps noirs, sur les corps asiatiques aussi, parce que ce sont parfois des idées reçues ou des fantasmes qui ont été constitués à une époque où on cherchait à justifier une certaine hiérarchie entre certains hommes et certaines femmes et d'autres. Et je pense qu'il y a encore des résurgences de ça parfois, enfin, même la plupart du temps, je pense que c'est complètement involontaire. C'est quelque chose qui est tellement ancré que, voilà, on a des stéréotypes sur les corps noirs qui, effectivement, seraient moins fait pour la danse classique parce que trop musclé, parce que les pieds trop plats, parce que les fesses trop protubérantes, parce que la cambrure trop prononcée. Mais en fait, regardons le monde du ballet. Il y a eu de très grands noms du ballet, que ce soit en Europe ou que ce soit aux États-Unis, qui ont été des danseurs non blancs, des danseurs noirs ou des danseurs métis ou des danseurs amérindiens. C'est des gens qui ont eu de très belles carrières. Ils sont trop peu nombreux. Malheureusement, si on veut les citer, on pourrait les citer sur les doigts des deux mains. Mais en tout cas, ils ont été là et ils ont démontré par A plus B, par leur carrière, qu'ils n'avaient rien à envier, voilà, à quiconque. Donc je pense que c'est aussi ce travail-là d'éducation. Je pense que derrière tout ça, en fait, il y a aussi un travail d'éducation. Il y a un travail de dialogue, il y a un travail d'éducation pour un peu se sortir de ces conceptions-là qui sont anciennes et qui sont basées sur rien. Et il y a des gens qui sont là aujourd'hui, en 2020, pour prouver le contraire et qui l'ont déjà prouvé et qui continueront à le prouver que ben, on peut être une fille noire, même noir foncé de peau, parce qu'il y a aussi cette question-là hein, du colorisme, c'est-à-dire effectivement des danseurs qui ont la peau plus claire, ils sont plus nombreux. On le voit même dans le ballet de l'opéra, finalement les cinq danseurs sont métis, je suis métis aussi, mais c'est vrai que des danseuses ou des danseurs à la peau noire foncée, en tout cas à l'Opéra de Paris, on n'a pas vu, même dans d'autres compagnies, c'est assez rare. Donc je pense qu'il y a tout un travail de déconstruction, et ce travail d'éducation et de déconstruction, il peut se faire que si les gens, ils ont envie de le faire. Et je pense que c'est ça. Je pense que c'est pour ça que moi, je suis assez content de la façon dont cette démarche a évolué. C'est que je pense que c'est aussi convier les gens à la table, leur dire, OK, bon, peut-être que comme ça, on a l'impression de ne pas avoir les mêmes avis. On va en discuter. On va ressortir des chiffres, on va sortir des exemples, des trucs concrets, vraiment du concret. Et à la fin, vous verrez qu'on va être d'accord. Parce qu'en fait, on veut tous juste que cette maison soit la meilleure possible. On veut tous que l'art qu'on aime tous, parce qu'on est une maison où les gens, ils sont pas là par hasard, ils sont là parce qu'ils aiment ce qu'ils font. On a envie de partager cette passion et on a envie de la partager avec le plus grand monde. Donc discutons et on arrivera à quelque chose.
Et parmi les artistes qui font partie de la maison, j'ai lu dans le rapport qu'il y avait un nombre d'artistes parmi les danseurs et aussi parmi les musiciens de personnes d'origine coréenne. Et que la question raciale à l'Opéra de Paris englobe aussi les questions de racisme anti-asiatique, parce qu'il y a eu des reproches faits à des chanteurs d'origines asiatiques qui sont les mêmes qu'on faisait aux musiciens juifs d'avant-guerre. Donc c'est un élément qui a été indiqué par Clément Cogitoré. Un manque de sincérité, de la technique, mais aussi un manque d'âme. Voilà. Et il y a aussi les chanteurs asiatiques, ils ont les yeux bridés, on peut moins lire leurs émotions. Donc il y a ce manque d'expression, l'expressivité, c'est aussi... Il y a eu un hashtag aux États-Unis sur Twitter pour dénoncer dans les castings, les directeurs de casting qui estimaient que parce que les personnes étaient asiatiques étaient moins expressives que d'autres. Il y a aussi l'idée que les chanteurs noirs ont l'air en colère, le fameux Angry Asian Man ou Woman.
Et donc, Angry Black, pardon.
J'ai dit Asian, excusez-moi.
Il manque qu'ils soient en colère en plus.
et qui donc, les personnes noires doivent se forcer à sourire pour paraître aimables. Et donc, ça fait partie du rapport aussi, cette volonté de permettre le signalement de ces violations, de micro-agressions, de ce racisme de tous les jours. C'est quelque chose que tu espères que la maison va mettre en œuvre.
De toute façon, c'est quelque chose qu'on avait indiqué dans le manifeste, parmi les propositions qu'on faisait. Il y avait aussi cette mise en place d'outils pour lutter de manière efficace contre, effectivement, toutes les formes de discrimination, que ce soit des discriminations ouvertes et volontaires, qui sont plus rares, heureusement, mais ça n'empêche pas qu'elles peuvent être existantes, ou que ce soit des discriminations plus banalisées, ou effectivement sous la forme de l'humour, ou sous la forme de certaines expressions, ou voilà, effectivement, cambrure de négresse, ou sous la forme de certains stéréotypes, en fait, qu'on accroche à certaines personnes, effectivement, les personnes asiatiques qui ne sont pas expressives, enfin... Voilà, enfin, je veux dire, moi je vais très souvent voir du ballet, je vais voir souvent de l'opéra aussi, mais je vais très souvent voir du ballet, et il y a des danseurs et des danseuses dans cette compagnie qui ont des origines asiatiques, et non, enfin, ils me font vibrer, mais voilà, mais il y a quelque chose dont il faut se détacher aussi, et je pense que c'est aussi de la responsabilité de l'institution de mettre en place cette politique de tolérance zéro. Alors ça ne veut pas dire de taper sur les doigts à chaque fois, mais je pense qu'il y a aussi là aussi un travail d'éducation. Parce qu'effectivement, il y a des propos qui ne sont pas tolérables. Et objectivement, tout le monde sait qu'ils ne sont pas tolérables. On n'est pas sur justement un manque d'éducation. Ou par exemple, le sujet du blackface. Moi, j'ai eu beaucoup de discussions et des amis de la maison ou même à l'extérieur qui ont souvent ces discussions et on se rend compte que les gens ne savent pas forcément d'où vient le blackface. Donc effectivement, on comprend que, bah oui, pourquoi pour un souci de vraisemblance, le personnage est noir, je me teins en noir, quel est le problème? Mais c'est quand on explique d'où ça vient et quels sont... Voilà. Donc là, je comprends. Mais pour ce qui est racisme ordinaire, il y a certains propos, tout le monde est d'accord, tout le monde sait que ça ne se dit pas. Et c'est pas par politiquement correct, c'est pas... voilà, on sait que ça ne se dit pas.
C'est irrespectueux vis-à-vis des personnes concernées.
C'est injurieux, c'est irrespectueux. Mmh. Et je pense qu'il y a aussi cette culture de la solidarité et cette culture du support de ses amis ou de ses collègues, de dire, voilà, quand on entend quelque chose... Effectivement, quelque chose qui n'est pas entendable, en tout cas pas dans le cadre professionnel, il y a cette nécessité d'avoir un face-à-face avec la personne et de dire, ben voilà, ce propos-là, c'est pas possible, on peut pas entendre ça. Et puis les gens apprennent, les gens comprennent, les gens apprennent. Parfois, effectivement, c'est sur le ton de l'humour, ils comprennent pas que c'est de l'humour, mais qui peut blesser ou qui peut renvoyer une personne dans certains manques de confiance en eux, effectivement.
Et sur cette question de l'éducation par rapport au blackface ou le barbouillage aussi, tel qu'il est traduit en français, c'est que le rapport fait état de son origine dans la comédia dell'arte. C'est-à-dire qu'on a souvent l'impression que le blackface est une pratique états-unienne importée comme le racisme, et que c'est pas français, en fait, c'est pas européen, c'est quelque chose qui vient de cette terre où il y a eu l'esclavage, Jim Crow, voilà. Mais ce que dit le rapport, c'est qu'il y a aussi des pratiques de barbouillage avec le personnage d'Arlequin, qui est un personnage, un valet bouffon, paresseux, menteur, et il a été joué par des personnes noires, incarné par des personnes noires depuis des dizaines, des centaines d'années en France, dans l'opéra. Donc c'est important aussi d'éduquer les gens pour leur dire que ça, c'est des pratiques qui sont aussi de chez nous.
Mais je pense qu'il y a un gros problème. Je pense qu'on... Je ne sais pas d'où ça vient, je ne me dis pas... Mais je pense qu'on a, un rapport très étrange aux États-Unis et à ce qu'est le racisme aux États-Unis. Effectivement, les cultures ne sont pas les mêmes, on n'a pas les mêmes histoires, on n'a pas la même démographie. Voilà. Bon, y a eu aussi de l'esclavage en France, hein, sur le sol français, pas en métropole, mais dans les territoires d'outre-mer, faut pas l'oublier. Mais il y a cette peur aussi, je pense, d'importer des modèles américains, de copier, de se laisser influencer. Enfin, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup et qu'on lit beaucoup, que ce sont les idées américaines qui arrivent en France. Déjà, premièrement, il faut pas oublier qu'un certain nombre de ces idées américaines ont à la source des intellectuels français. Quand on pense à Frantz Fanon, par exemple, qui est un écrivain antillais, qui est ensuite parti en Algérie et qui a aussi beaucoup contribué dans l'indépendance de l'Algérie, qui a servi au mouvement nord-américain d'émancipation des années 60. Et voilà, donc vraiment, il faut aussi remettre les choses à leur place.
Il est presque plus connu, en fait, presque en dehors de chez lui. C'est un des auteurs français les plus lus au monde, mais en France, il n'y a pas ce niveau de reconnaissance.
Exactement. Donc déjà, c'est important de remettre ça sur le tapis. Et deuxièmement, pas besoin d'aller regarder aux États-Unis pour voir le racisme. Le racisme, il existe aussi dans ce pays-là. Les discriminations, elles existent aussi dans ce pays-là. Et c'est aussi pour ça, moi, je pense que quand Benjamin Millepied, en 2015-2016, a mis ce sujet sur la table, de choses qu'il avait entendues, de choses qu'il avait vues, qu'il voulait changer, on lui a beaucoup reproché ça. Parce que, effectivement, Benjamin Millepied, il est français, mais il a fait toute sa carrière au New York City Ballet. Et donc, il a cette vision, enfin, c'est ce qu'on lui reprochait, d'avoir cette vision de la diversité, de l'antiracisme ou du racisme, et cette vision de la diversité dans le monde du ballet, qui était très américaine. Et en plus, c'est pas un danseur qui est passé par... dans sa carrière de danseur, il n'est pas passé par l'Opéra de Paris. Donc, au-delà du fait qu'effectivement, il est vécu aux États-Unis, il n'a pas non plus connu cette vie au sein de l'institution de l'Opéra de Paris. C'est un reproche qu'on ne peut pas nous faire cette fois-ci. Le reproche, le manifeste, il est rédigé par des gens qui ont grandi dans cette maison, surtout les danseurs. Les danseurs, ils sont tous issus de l'école de danse, comme la grande majorité de la compagnie. On entre à l'école de danse entre 10 et 12 ans. C'est-à-dire que les danseurs qui ont aujourd'hui entre 20 et 30 ans, ils sont et elles sont dans la compagnie depuis 10 à 20 ans. Vous vous rendez compte, pour un enfant de 10 ans, à l'âge où on est insouciant, où on mène sa vie, ce sont des gens qui ont décidé qu'ils allaient faire ça de leur vie, qui ont mis aussi tous les efforts dans cette vocation, dans ce rêve-là, qui ont travaillé très dur, c'est beaucoup de discipline, et puis c'est aussi grandir très vite, en fait, devenir mature très vite, parce que effectivement, on a un objectif sur une carrière qui se finit plus tôt qu'un métier ordinaire. Et voilà, donc c'est des gens qui ont été biberonnés, si je peux dire, à la culture du ballet, à la culture de l'opéra. on a transmis un savoir, on a transmis une façon de jouer, une technique. Donc on ne peut pas dire que c'est une vision américaine. Au contraire, ces gens-là, ce sont de purs produits. Moi, le travail que j'ai à l'Opéra, c'est mon premier job en CDD puis CDI. Donc ma culture du mécénat et ma culture, je l'ai acquise à l'Opéra de Paris. J'ai pas de vision.
Tu n'importes rien.
N'importe rien. Je suis, voilà. Mais c'est ça aussi. Voilà, on est un pur produit français et on est un pur produit de l'Opéra de Paris. On vit dans cette institution, on y passe beaucoup de temps, avec beaucoup de plaisir, mais on y passe beaucoup de temps, on donne beaucoup. Donc non, il n'y a rien d'étranger. Tout est là.
Et justement, puisqu'on dit que les choses ne sont pas étrangères, je pense que tu le disais à l'instant, la question de la connaissance de l'histoire et du passé de l'opéra est extrêmement importante. Vous dites en introduction de votre texte que l'opéra n'est absolument pas étranger au noir, l'opéra de Paris. Selon vos termes, c'est le lieu où s'est déroulée la première grande affaire de racisme de la société moderne, puisqu'en 1776, le violoniste, compositeur et chef d'orchestre Joseph Bologne de Saint-Georges, qu'on connaît sous le nom de Chevalier de Saint-Georges, c'est le favori de Marie-Antoinette pour prendre la tête de l'institution, et en fait, il se voit victime de racisme, puisque en fait, certaines personnes considèrent qu'elles ne peuvent pas être dirigées par lui, qui était ce qu'on appelait à l'époque un mulâtre, donc un homme métis, et donc finalement, ça n'aura pas lieu. Et le rapport invite justement à une meilleure connaissance de ce passé pour valoriser les figures méconnues. D'ailleurs, il y a un article qui est paru au sujet du Chevalier de Saint-Georges récemment sur le site de l'Opéra qui a été rédigé par Charles-Alexandre Créton, donc qui raconte cette histoire qui n'est pas connue. Son répertoire va être à nouveau valorisé. Et puis, j'ai appris des choses aussi très intéressantes sur d'autres figures minoritaires qui ont été brimées aussi par l'histoire de France et qui se sont vues écartées de l'opéra. Par exemple, le rapport préconise de rendre hommage à la mémoire des élèves juifs de l'école de danse qui ont été écartés en septembre 1940. À l'époque des lois de Vichy, des salariés juifs renvoyés en octobre 1942, dont certains, effectivement, que ce soit les danseurs ou les salariés, ont été déportés dans le cadre de l'Holocauste de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, est-ce que toute cette histoire-là, justement, ne permettra pas de comprendre que l'Opéra de Paris, c'est aussi un espace populaire, au sens vraiment d'appartenir à l'ensemble de la population, et que tout le monde, en fait, a une histoire en rapport avec l'Opéra ?
Bien sûr, et je pense que c'est très très important de rappeler aussi que notre pays, la France, c'est un pays qui est divers, c'est un pays avec des gens qui ont des phénotypes différents, des origines différentes, et c'est pas nouveau. Effectivement, on a cité Saint-Georges en introduction de notre manifeste. Saint-Georges, c'est le 18e siècle, c'était il y a 250 ans. Il y a 250 ans, il y a une personne noire à une époque où pourtant il y avait encore l'esclavage, donc on était dans un contexte qui était particulièrement hostile aux personnes noires, mais on avait cette personne qui était une vedette absolue de la scène parisienne, qui animait les salons les plus réputés, et qui avait été pressenti pour diriger l'institution artistique peut-être la plus réputée en France, peut-être la plus réputée en Europe, et dans le monde, en tout cas, une des plus réputées. Donc, on en était là, il y a 250 ans, on en était à être prêt à avoir un directeur de l'opéra qui était métisse. Donc, je pense que c'est ça aussi qui est important, de se dire qu'on n'arrive pas maintenant comme un cheveu sous la soupe.
Tu veux dire que la chronique des Bridgerton, c'était l'opéra de Paris, en fait.
Peut-être. Non, mais je pense que c'est important aussi pour les personnes qui sont françaises et français et qui aiment ce pays, qui ont contribué aussi à ce que ce pays a apporté et qui ont une voix à faire entendre dans ce pays, à comprendre que dans le passé, il y a eu des gens comme eux, de leur même couleur de peau, qui partageaient les mêmes caractéristiques qu'eux, qui ont contribué à cette culture. Et que cette culture, même si effectivement on le voit aujourd'hui quand on va dans des salles de théâtre, dans des salles d'opéra et de ballet, qui est majoritairement blanche par les artistes qui sont sur scène, les personnes qui sont dans le public et même tout l'écosystème qui gravite autour, mais que de tout temps, il y a eu des gens noirs, il y a eu des gens asiatiques qui ont contribué à ce qu'est la culture française aujourd'hui, mais parfois dans ce cas-là de plus classique. Saint-Georges, on l'appelle de manière très maladroite, je pense, le Mozart noir.
Donc, alors qu'on pourrait dire que Mozart, c'est le Saint-Georges blanc, quoi.
Exactement. Ou on pourrait juste l'appeler par son prénom, mais le réduire à sa couleur de peau et le faire disparaître derrière une autre figure de l'époque qui, selon les dires aussi des personnes qui se sont penchées sur cette période-là et sur les biographies, n'avait absolument rien à envier à Mozart, peut-être même au contraire. Je pense que c'est important pour les jeunes personnes racisées aujourd'hui qui ont aussi envie d'avoir une carrière dans des domaines qu'on perçoit comme des domaines essentiellement blancs, de comprendre qu'il y en a eu bien avant eux qui ont aussi fait ce que sont ces arts qu'on considère comme prestigieux, et d'avoir aussi des figures auxquelles se rattacher. Et ça, je pense que c'est, voilà, pour dire, on fait partie de ce pays, on n'est pas juste arrivé comme ça, comme un cheveu sur la soupe, et puis on essaie de forcer les portes pour qu'on nous fasse une petite place. Non, non, il y a des gens qui, il y a bien longtemps, ont contribué à la culture de ce pays, à la grandeur de ce pays. Et je pense que c'est important d'avoir ces figures-là pour pas se sentir un petit peu comme un imposteur parfois. Parce que c'est parfois à la lecture de certaines personnes qui sont pas les plus bienveillantes sur le sujet, on a un peu cette impression. En fait, on se demande, mais est-ce que c'est pas une totale imposture? Est-ce que on devrait pas, en fait, se fondre parce que ça nous appartient pas? Donc, si on nous laisse entrer, ben, on fait. Mais en fait, non, on n'est pas imposteur. De tout temps, il y a eu des gens de couleurs différentes qui ont contribué à cette culture, que ce soit dans le domaine politique, dans le domaine artistique, et il est important de les remettre dans l'histoire et de leur redonner aussi le rôle qu'ils ont eu, parce que c'est vrai qu'étrangement, souvent on entend moins parler que les autres.
Et bien merci beaucoup pour cette conclusion très très engageante. Merci beaucoup Vincadi, Emmanuel Hillet, donc d'être venu nous parler de la situation spécifique de l'Opéra de Paris, mais qui parle de tellement d'autres choses. Le rapport dont on a parlé est un rapport qui a été commandé par Alexandre Neff à Constance Rivière et à Pape Ndiaye pour justement étudier, explorer et faire un audit en fait de la situation à l'Opéra de Paris.
Il est disponible d'ailleurs sur internet, hein,
sur le site de l'Opéra,
sur le site de l'Opéra de Paris.
Ben merci beaucoup de m'avoir accueilli. C'était un vrai plaisir de discuter avec vous.
Partagez. N'hésitez pas à nous faire part de vos opinions sur l'échange que nous venons de mener. Si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Si vous êtes surpris, choqué. Si vous pensez que c'est une bonne direction que prend non seulement les débats, mais les actions au sein de l'Opéra Paris. Vous pouvez nous écrire à kiftaras@bild.audio ou nous contacter sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, avec tout simplement nos pages. Et sinon, avec le hashtag kiftaras.
Kiftaras, c'est un podcast produit par Binge Audio et réalisé aujourd'hui par Adèle Itel Elmadani. Merci à Camille Regache et à Naomi Titi pour l'édition. On se retrouve très vite pour une plongée dans les questions raciales. Merci Rokhaya.
Merci Grâce.
Merci Vincadi.
Merci à vous.